Philippiens chapitre 4, verset 6. On en verra bien d'autres. Énormément de passages concernant l'action de grâce, puisque nous allons partager ça ce matin. On peut lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, allez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a voulu faire un culte de reconnaissance, où en fait, il faudrait le faire tous les dimanches, puisque tous les dimanches, normalement, ça devrait être un moment de reconnaissance. Et pas juste, je viens le dimanche à l'église, je suis fatigué, et je viens juste m'asseoir. On doit être plein de joie quand on vient le dimanche matin. C'est comme moi, quand on se lève, on n'est pas plein de joie. On est fatigué, et on n'a pas vraiment envie. Mais voilà, le Seigneur veut nous aider. Être reconnaissant, c'est un projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous le saviez ? On ne le sait pas trop. Parce sinon, on le vivrait vraiment. Mais c'est aussi un projet. Il y a le salut, il y a grandir avec lui, mais aussi la reconnaissance. Le problème, c'est que c'est difficile d'être reconnaissant. C'est un exercice difficile parce qu'il faut s'arrêter de courir. On ne peut pas être reconnaissant en courant toute la journée, dans toute la semaine. Il faut savoir s'arrêter un moment et prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de se remémorer ce que le Seigneur a fait, ce que j'ai fait dans ma vie aussi, et de réfléchir. Aujourd'hui, ce monde ne nous permet plus de réfléchir. Quand on a le seul moment qu'on a, on va sur Facebook, quand on a un peu de temps, on va à l'étaler, on n'a plus le temps de réfléchir. Et c'est bien dommage. Parce qu'il faut faire un effort de mémoire. Il faut analyser ce qui s'est passé cette semaine. Si je vous posais la question, qu'est-ce qui est arrivé dans votre semaine ? Dans le détail, hein, pas juste j'étais au boulot. Qu'est-ce qui est arrivé de bien avec le Seigneur cette semaine ? Ou pas, peut-être. Enfin, ce n'est pas à cause du Seigneur, mais à cause de moi. Hein. Il faut prendre le temps de faire cet effort de mémoire et voir ce que vraiment le Seigneur a fait dans notre vie. Sinon, on ne peut pas être reconnaissant. On dit merci pour quelque chose qu'on a reçu, pas pour rien. Et Dieu, je crois, mérite justement notre reconnaissance. Mais il faut faire cet effort. Alors aujourd'hui, on a fait l'effort. Bah, la gloire hein, quand même, hein, mais il faudrait le faire tous les jours. Et comme l'a dit Rémi tout à l'heure, je pense que celui qui fait l'effort de la reconnaissance va être heureux, tout simplement, curieusement. Cherche le bonheur dans mille et une choses, mais être reconnaissant rend vraiment heureux. Et on va parler ce matin de cette action de grâce. Hein, et la première chose qu'on peut se poser comme question, mais pourquoi je dois rendre des actions de grâce ? Il y a différents mots dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébreu, shelem, qui parle de sacrifice d'action de grâce, de sacrifice volontaire de remerciement. J'insiste sur le volontaire. Ce n'est pas à moi de vous forcer à avoir de la reconnaissance, de toute façon, je n'y arriverai pas, vous êtes plus fort que moi. Mais c'est volontairement que je prends un moment pour remercier Dieu. À l'époque, ça se faisait au travers de sacrifices, hein, on est avec un animal ou avec certaines choses, et on faisait ce sacrifice, mais ça coûtait quelque chose, justement. Aujourd'hui, on dit merci Seigneur, mais ça ne me coûte pas grand-chose. Hein, il y a des merci Seigneur qui ne sont pas sincères, des fois. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait à la personne, et quand elle voulait vraiment rendre grâce, ça lui coûtait quelque chose. Et ça devrait nous coûter aussi des fois quelque chose. Le petit effort de mémoire, c'est que ça nous coûte déjà pas mal. Prendre le temps de se mémoriser ce que Dieu a fait vraiment pour nous. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs expressions comme action de grâce, qui parle de gratitude, un autre mot qui dérive, qui parle de reconnaissance. Je suis plein de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Notre expression, c'est rendre grâce. On va voir pour divers sujets. On peut rendre grâce à Dieu pour plein de choses, pas que le salut. Heureusement, mais c'est déjà pas mal. C'est donc une occasion de remerciement, un moment où je m'arrête, où j'identifie ce que Dieu a fait pour moi, où justement j'ai envie de dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. Et ça ne se fait pas que dans les bons moments. Parce qu'on fait ça que dans les bons moments. Et comme on a rarement des bons moments, on le fait très rarement. C'est ça le problème. Il faut savoir remercier Dieu même quand il y a la tempête qui arrive. Pensez à nos frères et sœurs qui sont dans l'église persécutée aujourd'hui, en prison ou ailleurs, et sont plus reconnaissants que nous pour le petit bout de pain qu'ils ont, parce qu'ils peuvent manger aujourd'hui, alors que nous on a tout, et on manque bien souvent de reconnaissance. Une autre chose, pourquoi rendre des actions de grâce ? C'est simplement parce que Dieu le veut. Dans Colossiens chapitre 2, 6 à 7, je vais dire, il est dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Il n'est pas dit « de temps en temps faites une action de grâce », il est dit « abondez », c'est-à-dire « beaucoup, beaucoup ». Dieu désire qu'on abonde en actions de grâce. Pourquoi ? C'est pour nous embêter ? Et il le mérite, non ? Non, il n'a rien fait pour vous cette semaine. Vous avez mangé, non ? Pas mal. Vous avez un toit, vous avez des vêtements. C'est la grâce de Dieu. Et on peut le remercier parce qu'il fait beaucoup de choses. Il vous a peut-être évité un accident, vous ne le savez même pas. Il a peut-être évité un tas de choses dont vous n'êtes pas au courant. Mais il mérite l'action de grâce. Il mérite notre reconnaissance. Et surtout, si on est chrétien, non, on ne peut que rendre grâce pour tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Naturellement, on râle plutôt. Mais normalement, on devrait plutôt être reconnaissant. Depuis que nous avons tout en Christ, comme il dit, hein, Paul, on est enraciné et fondé en Dieu. On est enfant de Dieu. Et quand on se dit qu'on est enfant de Dieu, tout de suite, ça fait quoi dans notre cœur ? J'ai tellement entendu parler ça, ça ne me fait plus rien en fait. Hein. À part François, ça je sais que toi. Hein. Mais ouais, mais ça devrait nous réjouir et ça devrait nous pousser à adorer, rendre grâce à notre Père céleste. Hein. Marcher en lui, il dit aussi, parce que je peux rendre grâce parce que si je marche en lui, je suis protégé tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas des fois des ennuis, mais là encore, le Seigneur me protège de pire peut-être. Parce que je suis aimé dans cette marche, parce que je suis encouragé dans cette marche. Parce que toutes ces choses-là, finalement, ça produit de la joie dans ma vie. Et forcément, j'ai envie de rendre grâce à Dieu. Et être affermi par la foi, comme il dit aussi, c'est pas grâce à moi. Hein. Je sais pas où on serait aujourd'hui en tant que chrétien si c'était sur nos propres forces que l'on avançait. On marche parce que le Seigneur nous affermit dans la foi. C'est lui qui nous rend ferme par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous rend capable d'avancer. Est-ce qu'on s'arrête des fois en disant « Merci Seigneur de m'aider à avancer ». On est fiers de nous quand on a lu la Bible aujourd'hui. Oh, j'ai fait le top aujourd'hui. Mais de se voir avancer comme ça et passer des épreuves au bout de 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, et de se dire « je suis encore là, debout. Ah, merci Seigneur, c'est pas rien, c'est grâce à toi. » Bon, il y a ma part aussi, hein, parce que je peux bouder. Mais le Seigneur va me corriger et me faire avancer. Pourquoi rendre des grâces aussi ? Parce que dans le ciel, ils le font. Par exemple, dans Apocalypse 4, 9, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Tous les jours dans le ciel, on n'entend pas, mais les anges, tous les personnages qu'il y a là, rendent grâce à Dieu. Alors nous, on ne devrait pas rendre grâce à Dieu ? Si eux le font, alors qu'eux, ils sont à côté, ils ont tout déjà, ils rendent grâce à Dieu. Qui sommes-nous pour refuser de rendre grâce à Dieu ? Dieu désire donc que nous rendions des actions de grâce. Il ne le fait pas parce qu'il veut nous embêter, parce qu'il faut faire encore quelque chose. Il ne faut pas le faire par légalisme non plus. Il faut le faire simplement parce que pour celui qui le fait, au bout, il aura de la joie. Quand vous êtes tout le temps en train de marmonner, de murmurer, de dire à Dieu ah, « j'en ai marre, ça n'avance pas, c'est difficile », vous êtes heureux. Faites semblant en tout cas. On ne peut pas être heureux dans cet état-là. Par contre, si tout va mal, mais que je dis « le Seigneur va m'aider », il m'a sorti plus d'une fois de mes épreuves et de mes difficultés. C'est pas marrant, je le sais. Mais en faisant cela, déjà, il y a une petite joie qui va venir, celle de savoir que Dieu est là déjà. Et ça, c'est énorme. Posez la question aux gens qui ne connaissent pas Dieu quand ils doivent traverser des cancers, des difficultés, dans quel état ils sont. Il y a des optimistes, mais ils sont rares. Et nous, des fois, on leur ressemble, hélas, mais on ne profite pas du Seigneur. C'est bien dommage. On peut voir dans la Bible, hein, je me suis intéressé juste aux actions de grâce, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais les sujets. Il y a beaucoup de choses, on l'a dit tout à l'heure, le premier, le plus grand, c'est évidemment le salut. Dans 2 Corinthiens 9, 15, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». Alors, quand on est jeune chrétien, salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Puis 20 ans plus tard, ouais, je suis sauvé. Ça n'a plus la même magie, on pourrait dire, si on parlait de magie. Hein, et c'est bien dommage, parce qu'on devrait toujours avoir la joie d'être gracié. Ah, quelqu'un de gracié, c'est quelqu'un qui était d'abord condamné à mort. C'est dommage qu'on n'ait pas vu l'échafaud. Voilà. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Mais de comprendre que vraiment, on méritait la mort, à cause de notre péché. Et que le Seigneur nous a évité cela en mourant à notre place. Certains Spurgeon écrivaient, en parlant du salut, « Christ nous a sauvés. La bénédiction du salut ne se limite pas à notre lit de mort et au séjour céleste. mais la vie éternelle se reçoit et se vit dès à présent. Le croyant n'espère pas être un jour sauvé, il l'est déjà. Toute la nuance. Chacun de nous est en ce moment présent soit perdu, soit sauvé. Dieu a sauvé ses élus, non partiellement, mais de façon parfaite, c'est-à-dire selon son dessein. Il les a destinés à la vie éternelle et son dessein est irrévocable. Je suis déjà sauvé. Je crois que c'est dans Philippiens, il dit qu'on a déjà un pied dans le ciel. Ouais. Si on y réfléchissait vraiment, ça changerait un peu notre vie, je pense. Même si je verrais mon patron demain, même si je dois aller à l'école, mais ça changerait quand même la vie de savoir que... Et de prendre cette réalité comme totalement vraie et déjà acquise totalement. C'est génial, quand même, de savoir qu'on est sauvé. Et ça, ça pousse pas à l'action de grâce. Il faut me réjouir, non ? Je vais être fatigué ce matin. Ça donne de la joie. C'est pas de rire comme un idiot, on est bien d'accord, c'est pas ça. Mais c'est au fond du cœur, c'est quelque chose qui me transporte. Le fait d'avoir été gracié, j'ai trouvé aussi une espérance. Je sais pas où vous en étiez vous autrefois sans le Seigneur. Moi j'étais très loin et très mal. Mais là j'ai une espérance en Christ. Je sais où je vais, je sais qu'il m'aide tous les jours. La vision de ma vie a complètement changé. Je pense que la vôtre aussi, dès qu'on est converti. Et ça c'est un soleil dans notre vie. Parce que le monde est plutôt sinistre. Nous sommes devenus héritiers de Christ. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir un héritage de je ne sais pas qui, ça restera de toute façon sur la terre, mais vous êtes au moins héritiers de Christ, et croyez-moi que l'héritage il est bien meilleur que celui que nous pouvons avoir sur la terre. J'ai un avenir glorieux. Prenez le temps de relire Apocalypse, la fin, de voir votre maison, de voir ce qui va se passer pour chacun d'entre nous. C'est génial, non ? C'est ça auquel il faut penser quand tout va mal. Pas que tout va mal. Non, tout va bien, en fait, parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui vont m'attendre de glorieuses. Un nouveau corps, hein ? T'attends ça ? Moi aussi, d'ailleurs, avec ma hernie. Mais un nouveau corps, plus de péché. Mamma mia. Je ne pécherai plus. Ça sera génial. Enfin, on va s'entendre tous, hein ? Ça va être bien. Mais tout ça, ça me donne de la joie, ça procure de la paix. Et il faut savoir remercier Dieu pour son Fils, hein. Pas le jour de notre conversion seulement, mais chaque fois qu'on le peut. Remercier Dieu pour ce salut, le fait surtout qu'il ait tout accepté pour nous qui méritions absolument rien du tout. Il ne méritait rien. Et quand on le fait régulièrement, on a la scène pour nous souvenir de ça, mais il faudrait le faire pour nous-mêmes. Chaque fois qu'on prie, on devrait remercier le Seigneur pour cela. Il ne faut pas que ça devienne non plus mécanique, on est bien d'accord, mais quand même. L'autre chose, dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7, il est dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu s'est approché de nous de mille et une manières. D'abord pour nous sauver, alors qu'on était totalement aveugle, alors qu'on ne cherchait pas Dieu, alors qu'on était dans notre péché, mais il s'est révélé, alors d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas par sa parole à un moment, au travers d'un témoignage, prédication, en lisant la Bible, mais il s'est révélé par sa parole. Et c'est là où ça a produit la foi en nous, et le fait de connaître Dieu, ça a fait beaucoup de choses dans notre vie. Si vous n'avez pas rencontré le Seigneur, vous pensez être où aujourd'hui ? Je serais mort, moi, je pense, ça c'est sûr, clairement. Et c'est bien d'y penser de temps en temps, de se dire où je serais aujourd'hui si je n'avais pas rencontré le Seigneur. Bon, on peut vivre correctement, hein, y a des gens qui arrivent, mais quand même. Il nous a révélé sa parole, il nous a comblé des richesses de la parole et de la connaissance. C'est vrai, non ? La parole, c'est une richesse. Pourquoi on ne la lit pas alors ? C'est ça qui est curieux. Oui, la parole, ah, c'est bien la parole. Mais est-ce qu'on la lit tellement que ça ? Parce que si je vous proposais 1 million d'euros chaque jour et que vous devez prendre ce rendez-vous avec moi, qu'est-ce que vous feriez ? Vous seriez là tous les jours. Hein. Peut-être au bout du 10e, vous arrêterez parce que 10 millions, c'est déjà pas mal. Mais parce que c'est une richesse. Parce que ça va produire quelque chose pour vous. Mais la parole, on a eu. C'est quoi ce truc ? Mais c'est comme ça qu'on devrait s'approcher de la parole de Dieu et d'être comblé de sa richesse et de sa connaissance. Il ne s'agit pas de s'enfler non plus dans la connaissance et de dire « moi je connais toute la Bible ». Mais plus je connais la parole de Dieu, plus je suis transformé, plus je connais Dieu et donc mieux je le suis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises avec pas beaucoup de connaissances et on suit un peu n'importe qui et n'importe quoi. Et ça, c'est par manque de connaissances. Prenez le temps de lire la Bible au moins dans votre vie en entier, une fois. pour le Seigneur. Et en plus, il dit, Dieu nous donne tous les dons pour le servir. Eh bien voilà, je peux lire la Bible, et en plus, je peux travailler pour le Seigneur, parce que c'est lui qui me donne les dons. Et il veut m'utiliser dans son Église. Alors, je sais qu'on se dit des fois, ah, je suis pas capable, voilà, qu'est-ce que je suis, moi, dans l'Église ? Ben, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, avec un don, puis un autre don, et puis au fur et à mesure, ça changera avec le temps. Mais il veut que l'on soit utile dans l'Église. Et celui qui sert est heureux, parce qu'il remercie Dieu de pouvoir le servir, tout simplement. Si on est paresseux, on n'a pas envie de dire merci au Seigneur, puis on ne voit rien dans notre vie. On ne voit rien aussi dans l'Église, éventuellement. Mais si je me mets à travailler, je suis heureux, et j'ai envie de remercier Dieu. Après, il y a beaucoup d'autres sujets, hein, rapidement... Paul parle de rendre des actions de grâce pour les chrétiens, pour leur foi, hein, rendre grâce pour cette foi qui était renommée à Rome. Est-ce que d'autres églises peuvent faire cela pour nous ? Est-ce que notre foi, elle est renommée à Étréchy, à Étampes, et je ne sais pas jusqu'à où on pourrait aller ? Je ne sais pas, j'espère. En tout cas, ça commence tout doucement, mais il faudrait qu'elle le soit. Et ça produit de la joie aussi pour ceux qui implantent, qui travaillent, qui prient, qui aident financièrement. C'est de la joie que les chrétiens peuvent aussi provoquer dans le sens où ils grandissent. C'est beau de voir quelqu'un grandir, surtout pour un pasteur. Ça fait plaisir de voir les gens non seulement se convertir, mais en plus de les voir mûrir tout doucement, spirituellement. Ça prend du temps des fois, mais ça fait vraiment plaisir. Et après, ça fait plaisir à toute l'Église de voir que certains qui sont peut-être passés par des moments difficiles, ben finalement, marchent avec le Seigneur et fidèlement. Ça donne aussi, ça pousse à l'action de grâce. Puis dans 2 Corinthiens 9, 11, la générosité, les offrandes que certains ont fait pour d'autres chrétiens, poussaient aussi les chrétiens à l'action de grâce, parce qu'ils les aidaient dans des moments de difficulté. On peut rendre grâce au quotidien. Par exemple, Jésus avait rendu grâce pour Lazare qui a été ressuscité. Non, j'avais complètement oublié ça, et en préparant, j'ai revu ça. Et pour les miracles que Jésus fait, alors peut-être qu'il ne fait pas des grands miracles comme ça aujourd'hui encore, que je crois que Dieu peut le faire, mais... Il y a des petits miracles au quotidien, non ? Déjà, être sauvé, c'est un miracle pour moi. C'est déjà pas mal. Avoir un boulot, c'est un miracle. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Parce qu'on prie dans cette église pour certains qu'ils aient du travail, et Dieu pourvoit. C'est formidable, hein ? Dieu entend nos prières. Ça, c'est un miracle. De se savoir juste entendu par Dieu. Après, on pourrait chercher dans tous les domaines de notre vie. Et parfois, il y a des choses extraordinaires que Dieu fait dans nos vies, auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, il ne s'agit pas non plus que de chercher les miracles pour pouvoir rendre grâce, hein, parce que là, vous allez attendre longtemps pour en avoir beaucoup. Mais on peut les chercher dans les petites choses. Parler de nourriture, vêtements, peut-être la famille, les enfants, les frères, les sœurs, la vie, tout simplement, la nature. C'est beau, la nature. Profitez-en, parce que ça ne va pas durer. Il y a tellement de petits détails dans notre vie qui devraient produire cette joie. Je me souviens, Gérard Degon, c'était un pasteur à l'époque, il disait, quand quelqu'un n'a pas bien, il disait, prends une feuille blanche, marque tout ce qui ne va pas, là. Puis tu tires un trait, et puis tu commences à marquer tout ce qui va bien. Et généralement, cette partie-là est beaucoup plus importante que la partie où tout va mal. Il faut faire l'effort. C'est facile de se laisser aller, de râler, mais on peut faire le même effort pour remonter et être reconnaissant. Ça n'efface pas l'épreuve ni les difficultés, mais ça fera quand même du bien dans son cœur. Priez aussi pour la paix, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, avoir des actions de grâce pour tous les hommes, mais les hommes dont il parle, c'est les autorités. Les actions de grâce pour nos autorités, c'est bizarre, hein ? Ben déjà, peut-être parce que nous pouvons nous réunir en paix. Et si la Bible nous demande de prier pour cela, je pense que ça a son importance. Et quand on voit la France, comment elle devient aujourd'hui, je pense que l'Église prie de moins en moins pour son pays, hélas. On prie pour un tas de choses, mais pas pour son pays. Prions pour nos autorités, ils ont besoin du salut aussi. Ils ont besoin de rencontrer Christ. Et si d'un coup tout le gouvernement rencontrait Christ, je crois qu'il démissionnera tous, mais bon, ça c'est une chose. Mais il faut prier pour cela. Et on pourrait chercher comme cela un tas de raisons. Il y a 1000 sujets de reconnaissance, mais il faut faire évidemment l'effort de les chercher, mais surtout ne pas oublier que c'est Jésus-Christ le premier sujet de reconnaissance. Troisième chose qu'on peut se poser comme question, c'est comment rendre ces actions de grâce. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». C'est court, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Comment rendre des actions de grâce ? Ben, je prie, tout simplement. Je peux prier. C'est une recommandation du Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est important pour moi. Quelqu'un écrivait, en parlant de la prière, c'est à la fois un privilège, une grâce et l'objet d'un ordre. Ce n'est pas une proposition que le Seigneur nous fait. La raison de l'existence de la prière peut donc être formulée ainsi. C'est la permission que Dieu accorde à l'homme et qui, parce qu'elle lui est donnée par Dieu, devient aussitôt pour lui un commandement, un ordre et même une nécessité. Je sais que ce n'est pas toujours simple de prier, mais au fond, c'est tellement utile pour moi. Si on se souvient que c'est un commandement, alors là aussi, on va commencer à prier pour faire plaisir au Seigneur, mais au bout, le Seigneur ne dit pas prier pour prier, parce que ce n'est pas important ça, mais prier parce que c'est bénéfique pour vous, pour moi, pour l'Église. Ça rappelle le reproche que Jésus avait fait à ses disciples à Gethsémané, hein, lui qui allait passer par des moments terribles. « Venez prier avec moi hein. ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La sieste. La première fois, on aurait pu dire « Ok, bon, ça peut arriver », mais la deuxième fois, la sieste. Bon, c'est vrai qu'on était en plein milieu de la nuit, bien, mais quand même. Et puis la troisième fois, ils ont encore fait la sieste. Ils ont vachement bien soutenu leur maître. Hein. Bon, on aurait fait certainement pareil. Mais Jésus va leur faire le reproche. Veillez et priez parce que la chair est faible. On le sait, ce verset. Dans la tête, on le connaît. Et dès qu'on tombe, ah oui, j'ai oublié quelque chose dans ma vie, de prier, de prendre le temps d'avoir une relation avec Dieu, de la maintenir, cette relation au quotidien. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous écoute déjà, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Mais alors celui qui nous écoute, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Et lui, il peut tout pour nous. Donc, autant aller lui dire tous nos soucis, tous nos besoins, parce que lui, il va pouvoir faire beaucoup plus que bien des hommes, des fois. Mais prier, prendre le temps de prier. Et là, il va encore plus loin, parce qu'il dit qu'il faut persévérer dans la prière. Le mot grec est une petite particularité. Il dit plutôt toujours être à sa disposition, ou alors être assidu, être attaché. Persévérer, particulièrement dans la prière, c'est être à disposition de Dieu, attaché à lui. Avoir une relation, justement, avec lui. Et ça, c'est tellement important dans notre vie. La prière, je vois deux choses. D'abord, il faut prier seul. Il faut prendre le temps avec le Seigneur. Il y a nombre de versets qui le disent. Prendre le temps de fermer notre porte et d'être dans la présence de Dieu et de lui parler. Là, j'avais un ancien postier qui parlait de la prière. Je trouvais ça assez rigolo. Il disait, premièrement, choisis le bon code régional. Ne compose pas à l'aveuglette. Donc, pas n'importe où. Deuxième chose, une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle au bout du fil. Alors, vous n'entendrez jamais Dieu vous parler, mais c'est au travers de la parole de Dieu, évidemment. Troisième chose, si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact, parce que Dieu est toujours en contact. Quatrième chose, ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. Ça, on l'a, le numéro. Cinquième chose, ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de tarifs réduits, c'est-à-dire en fin de semaine, un court appel devrait être possible régulièrement. Ça coûterait en plus de prier. Merci Seigneur. Sixième chose, prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais. Ah oui. Bon, il y a free aujourd'hui, hein, mais c'est pas la même chose. Septième chose, n'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur ton répondeur. Il continue, hein, il rajoute un nota bene, il dit « Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l'Esprit-Saint, il rétablira la communication. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle également le pardon, parce que souvent c'est lié à ça. Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit, encore une fois. » C'est mignon, cette façon de voir la prière. Mais c'est tout à fait ça, être disponible pour Dieu, lui il l'est pour nous chaque jour, il est à côté de moi, et puis il me regarde, et puis bon, c'est quand il me parle, c'est quand il vient me voir, hein. C'est bien triste. Ça c'est la prière seule, mais si je ne prie pas seul, la seconde prière, qui est celle communautaire, on pourrait dire, ne va pas m'intéresser, parce que je ne vais pas la comprendre quelque part. On se pose la question pourquoi les réunions sont souvent si désertiques, quand on fait des réunions de prière, le vendredi, le mardi. Je sais qu'on ne peut pas toujours être là, mais quand même, pourquoi il y a si peu de monde ? C'est pas important de prier. Il y a quelque chose à la télé, il y a un match. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? C'est pas un reproche, hein, je veux pas culpabiliser les gens non plus, mais la prière ensemble est aussi importante. Ils persévéraient ensemble à l'époque dans l'Église primitive. Ils persévéraient ensemble et c'est ça qui leur a permis de passer ces moments de tribulation. La prière, elle doit être prise au sérieux. C'est pas un petit truc comme ça de chrétien qu'on doit faire. Jésus nous le demande. Et s'il nous demande de faire quelque chose, quand il nous dit de ne pas tuer, c'est qu'il y a une raison derrière. Non ? C'est que ça fait mal. Pour l'autre, surtout. Mais pas pour nous, parce qu'on va subir les conséquences. Mais quand il nous ordonne de prier, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a des conséquences aussi derrière de prier. On ne doit pas minimiser la prière. Parce que plus je la minimise, plus il y a une porte qui s'ouvre pour le diable. Tout simplement. Si je ne prie pas pour moi, je vais me laisser aller tout doucement. Allez. Et le diable va venir comme un lion rugissant. Si l'Église ne prie pas, tout doucement la porte s'ouvre à n'importe quoi aussi. C'est très important de prier pour l'Église. Et ensemble surtout. Et d'y veiller-y avec action de grâce. Alors, chez certains, la prière, c'est une vraie torture. Je sais, c'est pas évident de prendre du temps, d'avoir le temps, et de quoi je vais dire, de quoi je vais parler, etc. Mais avant de prier, dites-vous que c'est juste une relation avec Dieu, rien de plus, rien de moins. Vous n'avez pas besoin de faire des grands mots, des belles phrases. Dieu préfère des fois les paroles un peu simples, mais vraies, que les belles litanies qu'on peut dire des fois, et qui finalement sont là juste pour notre orgueil. C'est bien aussi de demander à Dieu, parce qu'il nous dit de demander. Mais comme l'a dit tout à l'heure notre frère, il faut demander, mais aussi en même temps le remercier. C'est ça qu'on oublie souvent. On demande, on demande, on demande. Une fois qu'il a donné, on remercie. Non, il faut prier, demander, en remerciant déjà de la réponse que Dieu va nous donner. Et là, ça change l'objectif de la prière. Parce que c'est mieux déjà, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais si je prie avec la joie que Dieu m'entend, avec la joie qu'il va me répondre, la prière, elle a une autre dimension dans ce cas-là. Mais si je prie en disant, de toute façon, j'aurai jamais ma Porsche. Peut-être parce que c'est pas dans la volonté de Dieu. Et on le sait nous-mêmes des fois et on va pas prier comme ça. Il y en a qui prient. Hein. Il y avait un Américain, hein. Je sais pas si tu avais vu le pasteur là qui demandait pour un avion. Tu avais entendu parler, bah, pour un jet. Hein. Vous pouvez prier pour moi pour un jet ? Il faudrait faire une petite piste là. Et il y a des gens qui vont donner, hein. C'est ça le pire. C'est là où je m'arrache les cheveux. Ouais. Mais voilà, priez en étant reconnaissant déjà. Parce que quand vous faites ça, vous faites confiance à Dieu. Et Dieu est honoré quand on fait ça. Et ça, il aime. Prier en remerciant, en plaçant notre confiance et en sachant que Dieu répondra positivement, négativement, mais on laissera faire. De toute façon, c'est bon pour moi. Philippiens 4:6, hein, on l'a lu tout à l'heure, de faire des demandes quotidiennes, savoir demander sans râler, sans pleurer, mais avec des actions de grâce. Hein. Parce que dans le besoin, bien souvent, ben, on panique. Hein, dès qu'il nous arrive quelque chose, on n'a plus d'argent, ou... Je suis comme vous, hein. Je suis pas mieux, vous croyez-moi. Mais peut-être qu'au lieu de paniquer, au lieu de ne pas être reconnaissant, au lieu de faire des reproches à Dieu, hein, c'est toujours à moi que ça arrive, ben peut-être qu'il faudrait aussi regarder en arrière, parce qu'on a déjà vécu ça plus d'une fois et on a vu Dieu réagir plus d'une fois et positivement chaque fois. Mais malgré tout cela, ben parfois on doute encore de la sollicitude de Dieu. C'est bien triste. Hein. On est des êtres humains, hein, je suis comme vous, je sais de quoi on parle. Mais il faut demander avec action de grâce, avec la joie d'être entendu. Des fois, on prie, amen, et sans s'arrêter en se disant, tiens, Dieu m'a entendu. Si on était en face de Dieu, on comprendrait mieux ce qu'est la vraie dimension de la prière. Parce qu'on le verrait, parce qu'on pourrait peut-être même parler. Mais c'est ça, prier de toute façon. Ça ne change rien, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il nous entend de toute façon. Et là, ça devrait être de la joie dans notre cœur d'avoir été entendu par le Tout-Puissant, la Majesté. Celui qui est sur le trône, celui qui ne peut pas grand-chose pour nous. C'est pour ça qu'on ne va pas souvent prier, parce qu'il ne peut pas grand-chose pour nous. On va réagir. Oh. Ben oui, mais si je savais que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, j'irais tous les jours. Moi, j'ai besoin du Seigneur tous les jours, pour ma santé, pour le travail, pour ma femme, pour ma famille. J'ai besoin tous les jours de lui, mais parce qu'il peut m'aider. Et c'est pour ça que je lui demande, s'il ne pouvait pas m'aider, je n'irais pas le voir, c'est clair. Mais bien souvent, on a oublié ou on ignore que Dieu peut faire un tas de choses pour nous dans notre vie, même au travail. Combien de fois je me suis arrêté dans mon travail parce qu'on avait des moments difficiles, où je suis allé dans les toilettes prier pour régler les situations et tout ça. Et ça marchait. C'est bien m'aider. Dieu est avec nous partout, pas qu'à l'église le dimanche matin. Demander avec action de grâce, ça efface les inquiétudes. Si je pense qu'à mon problème, et que je râle devant Dieu, je ne vais pas aller très loin comme ça. Ça ne marche pas. Encore que Dieu est plein de miséricorde, il va nous aider quand même. Merci Seigneur. Mais si j'efface, si j'ai des actions de grâce, si je veux faire l'effort malgré tout de faire confiance à Dieu et de le remercier malgré les difficultés, ben, y a beaucoup de choses qui vont d'un seul coup être balayées. Et ça va aller beaucoup mieux. On va avoir mal, on va souffrir, on va peut-être traverser des moments difficiles, mais on va être, comme on l'a vu tout à l'heure, porté par le Seigneur. Et ça change complètement la vie. Mais il faut évidemment se blottir dans les bras du Seigneur, parce que sinon ça ne va pas marcher. Et quand je fais ça, je suis dans la joie. La joie, on peut être joyeux dans l'épreuve, hein. Je suis désolé de le dire. La paix aussi dans l'épreuve. Jésus était en paix malgré toutes les épreuves qu'il a vécues. Peut-être pas dans la joie comme on pourrait l'être, mais quand même. Plutôt que l'angoisse des fois ou nos spéculations sentimentalistes sur l'avenir, hein, tout va aller mal, comme si on était devin. Eh oui, parce que c'est ça. C'est on dit des fois le comment ça s'appelle là, ceux qui devinent. Ça me passe. Les médiums ou tous ces gens-là, mais ce qu'on entend tous les jours, l'horoscope. Je dis pas écouter, mais des fois c'est rigolo hein, quand même. Mais en s'inquiétant, on fait un horoscope, puisqu'on dit que tout va aller mal. Ah oui, on prédit l'avenir. Alors que Dieu dit peut-être que demain, tout va aller mieux. Et moi, j'ai prédit l'avenir pour 15 jours, 3 semaines, 2 mois, des fois. Oui, mais quelque part, on se ment à soi-même, tout simplement. Et le Seigneur ne veut pas qu'on se mente. Il veut plutôt qu'on soit dans la joie plutôt que dans l'angoisse. Une autre chose que la Bible nous apprend par rapport à l'action de grâce, c'est qu'il faut prier pour le repas. Vous aimez manger ? Vous avez certainement faim, là, tout doucement ? Je ne dis pas ça à moi, parce que j'ai envie de le dire, mais c'est parce qu'on voit l'exemple, par exemple, de Jésus-Christ et de Paul. Hein. Par exemple, Jésus a rendu grâce pour le repas. Quand il avait marché avec les disciples d'Emmaüs, c'est au moment où il va rendre grâce qu'on se rend compte que c'était Jésus. Jésus a rendu grâce lorsqu'il a multiplié les pains. Hein. Il l'a fait en public à ce moment-là. Paul, lui aussi, rappelle que Jésus avait rendu grâce lors de la scène, hein, quand on rompt le pain, et qu'il avait partagé la coupe. Là, il avait rendu grâce à Dieu. C'est Jésus, hein, qui rend grâce à son Père. Il est Dieu aussi, n'oublions pas. Si lui le fait. Et puis Paul, alors c'est là où c'est le plus marrant, quand il a été envoyé à Rome pour être emprisonné, et pendant ce temps il y avait une tempête entre les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À un moment ils ont mangé, et Paul, dans la tempête, il a rendu grâce. Quand tout allait mal, il a rendu grâce. C'est extraordinaire, hein ? Dans votre prochaine tempête, pensez à ça. On peut rendre grâce malgré la tempête. Hein. Et ça, c'est des leçons pour nous. Rendre grâce pour le repas, ça, ce n'est pas simplement dire merci Seigneur pour ça, c'est la Bible qui nous le demande d'une certaine manière aussi. Qu'il faut se souvenir que ce que nous avons dans l'assiette vient de la part de Dieu. On peut le faire mécaniquement, rapidement aussi, parce qu'à force de le faire tous les jours, merci Seigneur pour ce repas, amen, hop, je ne pense pas du tout ce que je dis. Quand vous n'aurez plus rien à manger, d'un seul coup, la prière va devenir différente. Alors je sais, on a nos habitudes, hein, c'est comme ça, c'est la vie, mais de temps en temps, il faut quand même savoir s'arrêter, d'être mécanique et de prier sincèrement pour ce que l'on a dans notre assiette et dans le frigo. Et merci Seigneur pour cela. Hein. On peut rendre grâce chez soi, ça on le fait facilement, mais en public, quand on est au restaurant ou ailleurs, ben on a du mal, hein, parce qu'on est un peu honte parce qu'on est chrétien, etc. Mais Jésus l'a fait en public. Et il ne s'est pas gêné, 5000 personnes, je crois qu'il y avait, ou 3000 personnes, devant lui. Et il a rendu grâce devant Dieu. Je m'amuse souvent à le faire quand j'ai des non-croyants chez moi, parce qu'après, ça provoque tout de suite la discussion. J'ai rien à faire, juste prier. Et puis là, ah, croyant Dieu, c'est rigolo, faites-le, vous verrez, c'est marrant. Mais on peut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, et même dans la difficulté, ou même avec très peu de nourriture, ce que faisait Paul à ce moment-là. Une autre chose, une dernière chose, on voit qu'on peut rendre grâce dans nos conversations, ou pas, ou dans le contenu. Ephésiens 5:4 dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On a tendance naturellement à parler, à nous plaindre, partager nos problèmes, nos difficultés, nos manques, enfin, vous savez de quoi on parle. La pluie, le beau temps, toutes ces choses qui sont parfois si vides. Et même entre chrétiens. On peut parler de la pluie, du beau temps avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais entre chrétiens, c'est bien triste, parfois. On ne va pas parler de paroles déshonnêtes et tout cela, mais est-ce que nos conversations, parfois, ne devraient pas se concentrer sur Dieu, plutôt ? Surtout quand je partage un repas avec des chrétiens. Est-ce qu'il faut vraiment parler du temps, ou est-ce qu'on pourrait plutôt parler de notre témoignage, comment on est venu au Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi durant cette semaine? Bref, partager toutes les diverses grâces que Dieu fait pour nous, même si elles sont si infimes pour nous, elles sont tellement énormes pour Dieu. Mais on ne parle pas du voisin, ou du frère, ou du machin, je ne sais pas quoi, de quoi on peut parler, mais de ce que Dieu fait pour nous. Moi, j'aime beaucoup, quand on invite, partager le témoignage de l'autre, savoir comment Dieu a amené quelqu'un à Jésus-Christ. C'est tellement beau et varié, et des fois même miraculeux. Mais c'est ça, nos conversations, normalement, entre chrétiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tant parler du beau temps, mais quand même. Il dit partager les grâces de Dieu, parce que quand on fait ça entre chrétiens, on va s'encourager mutuellement. Ah ouais, t'as traversé des difficultés, mais Dieu t'a aidé. Ah ouais. Puis la prochaine fois que ça m'arrive à moi, je me souviens de ce témoignage de cette personne-là, et peut-être je me dis, si Dieu l'a aidé, Dieu va aussi m'aider, moi. Et ça fait tellement beaucoup plus de bien de partager la foi, partager nos vies de chrétiens. Vous savez, au ciel, on ne parlera plus du ciel ou du beau temps. Dans le royaume de Dieu, toutes ces choses-là auront disparu. On parlera de quoi ? De Dieu, je pense. Mais je pense qu'on parlera d'autre chose, hein, puisqu'on a quand même une éternité. Pardon ?
On sera heureux.
On sera heureux, ben oui. Puisqu'on parlera vraiment de Dieu, et sans péché, sans manquement, sans rien du tout. Mais on ne parlera pas du monde, ça c'est sûr. La température ou de ces choses-là. Même s'il y en a qui essaient de définir la température du ciel, hein, ce qui parle de ces 22, mais c'est des sectes. Hein. Ouais, on peut inventer n'importe quoi, mais si, on l'a dit tout à l'heure, on est déjà dans le ciel quelque part, si on sait qu'on va aller rejoindre le Seigneur, autant commencer aujourd'hui à parler des grâces de Dieu. Après, on pourra remercier Dieu en face, mais aujourd'hui, on peut les partager à quiconque veut bien l'entendre. Normalement, un chrétien devrait vouloir les entendre. Hein. Mais plutôt de parler de choses futiles, des fois, c'est bien dommage. Il y a des moments où il y a un moment pour tout, on est bien d'accord. Mais c'est bien de pouvoir partager ces choses entre nous et Dieu. Et encore une fois, honorer. Et puis, vous savez, quand on finit une conversation comme ça, on est heureux. On est bien. On est transporté, tout simplement. Donc, on le voit, la Bible nous dit qu'on peut rendre grâce en toutes circonstances. Donc, on n'a plus d'excuses, et quelque part. Hein. Mais surtout parce qu'on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, mais parce que Dieu le mérite. Parce qu'on considère que Dieu mérite nos actions de grâce et notre reconnaissance. Pour terminer, je dédie plus d'excuses. Plus d'excuses. Non ? On va s'en trouver des excuses de toute façon. Mais normalement, il n'y en a plus. Non ? On doit être reconnaissant pour toutes les grâces de Dieu pour nous. Mais il faut aller les chercher. Il faut aller les identifier. Il faut faire l'effort. Et c'est quand on fait cela, chaque jour, au quotidien, qu'on sera reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Vous savez, Dieu, il nous veut heureux. Chaque matin, il a un projet pour nous, c'est qu'on soit heureux. Bon, on peut peut-être traverser des choses difficiles, mais son but, c'est de nous conserver ce bonheur, cette paix. Mais nous, des fois, on ne la veut pas. Et on préfère se concentrer sur le patron, sur notre boulot, sur nos enfants, sur je ne sais pas quoi. Et finalement, quelque part, on ignore ce bonheur qui est à disposition. Et on préfère, des fois, notre tristesse. On est tellement habitué à avoir vécu comme cela avant que finalement, bah, c'est une habitude chez nous. Maintenant, le Seigneur nous veut heureux. Et quand on est heureux, quand on a ce bonheur dans notre cœur, eh ben, on devient reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Pour cela, je pense qu'il y a une chose importante, c'est persévérer dans la lecture de la parole et aussi dans la prière. Les deux sont tellement importants. Tellement importants. Hein. C'est pasteur qui vous saoule à vous dire ça tout le temps. Mais c'est important, et je le dirai jusqu'au bout, même si vous ne voulez plus l'entendre, je m'en fiche, je le dirai. Vous le direz aussi, j'espère. Priez. Prenez le temps d'avoir une relation avec Dieu dans la Bible. Dagon disait justement qu'on prie, on s'adresse à Dieu, on ouvre la Bible, Dieu s'adresse à moi. Et là, le dialogue commence tout simplement. Et on peut prier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et soudain, tout doucement, quand vous serez reconnaissant, votre vie va devenir de plus en plus belle. Un petit goût d'avant paradis, on pourrait dire. Que le Seigneur nous aide à être plein de reconnaissance pour lui. Prions. Seigneur, nous voulons d'abord te demander pardon, parce que nous manquons bien souvent de reconnaissance. Nous préférons regarder à nos cœurs, à nos émotions, à nos épreuves, à nos difficultés, en sachant peut-être même que tu es là, mais nous doutons des fois et nous laissons plutôt aller. Seigneur, apprends-nous à nous souvenir de toi au travers de la prière, de ta parole, au travers de la relation que tu veux avec chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque instant, Seigneur. Apprends-nous à nous relever quand nous n'allons pas bien et Seigneur, apprends-nous à nous relever en regardant ce qui est bon dans notre vie, en regardant les grâces que tu nous accordes, la joie d'être sauvé, la joie d'avoir le Saint-Esprit qui nous corrige quand il le faut, qui nous encourage dans d'autres moments, qui nous aide même dans la prière. La joie d'avoir des frères et sœurs vers lesquels on peut aller quand tout va mal, avec qui on peut prier, s'encourager mutuellement dans nos conversations. Seigneur, apprends-nous à regarder que nous avons de la nourriture en abondance, un vêtement, un toit, des enfants, un tas de choses merveilleuses, Seigneur. Apprends-nous simplement à nous réjouir de tout cela pour ensuite te dire merci, Seigneur. Apprends-nous à te donner ces actions de grâce régulièrement, parce que ça a produit de la joie en nous, mais surtout parce que toi, tu vas être honoré. Toi, tu vas être notre Dieu à ce moment-là, et ça te réjouit aussi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras encore dans notre vie, et encourage-nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.